Radio Django. Culture.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans Cultiver Lausanne, nous accueillons le peintre David Orange.
Effectivement, David Orange, lausannois de naissance, qui a eu une révélation pour la peinture à 16 ans, aux alentours de 1986 environ, et dont la pratique artistique se poursuit depuis. Autrement dit, cela fait plus de 30 ans contre vent et marée, ainsi qu'il l'affirme lui-même, qu'il manie le pinceau. Et voilà déjà presque 2 semaines maintenant qu'il expose à Pôle Sud un bel accrochage intitulé « Exquise Frénille », visible encore jusqu'au 30 septembre.
Bonsoir David Orange.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Merci. Alors comme vient de le dire Stéphane, vous exposez ici même à Pôle Sud depuis une quinzaine de jours, mais parallèlement vous préparez aussi une seconde exposition titrée « Poème sourd contre la vague triste ». Un accrochage qui se vernit ce jeudi même, c'est à Rolles, à la galerie Pfeiffer, et qui se terminera d'ailleurs le 1er octobre. Comment vous êtes-vous retrouvé au cœur de cette double actualité, David Orange ?
C'est un peu fatidiquement, parce que c'est difficile d'avoir une salle, il faut les réserver longtemps à l'avance, et puis j'avais perdu espoir pour celle de Pôle Sud, donc je me suis engagé ailleurs, avant de recevoir la réponse positive d'ici. Et puis, voilà, il faut servir quand on a de la demande.
Alors David, moi ce qui me frappe dans ton œuvre, c'est que toujours, qu'importe la taille de la toile ou le sujet traité, tes tableaux par rapport à l'époque actuelle se révèlent d'une facture singulière, dans le sens où ils s'inscrivent dans la continuation d'une histoire, celle de la peinture. Ils sont ni dans sa négation, ni dans son recyclage. Et du coup, en fait, qui seraient tes maîtres, David Orange, et pour quelles raisons ?
J'ai réfléchi à ce truc parce que j'ai eu vent des questions que vous alliez me poser. En fait, il s'agirait plutôt de sources d'inspiration et je les prends plutôt dans les métiers que dans les gens, dans des personnes. Donc, c'est plutôt la sociologie ou l'alchimie qui m'inspire. À part ça, je réprouve les maîtres et autres choses comme ça.
Donc ton œuvre est indéniablement...
C'est trop le sifflet, hein, Stéphane. Une réponse préparée comme ça, précise, c'est beau. Hein,
ouais, c'est pas mal. On voit qu'il a travaillé.
Ouais, c'est ça. Vous avez bien fait votre travail, les deux. Bravo.
Donc ton œuvre est indéniablement variée. Tu peins aussi bien des portraits que des paysages, des scènes contemporaines que pétries de références mythologiques ou allégoriques. Et bon, tu as déjà peut-être un peu répondu en parlant des métiers, mais d'où te vient ton inspiration ? Qu'est-ce qui te pousse à peindre ce que tu peins ?
Ah ben, si je le savais, je ne peux pas vraiment... comme j'ai dit, la sociologie, regarder les gens...
Voir les gens, c'est ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'on ressent là-dedans ? Bon, moi, je suis pas du tout peintre. Peu importe. Mais du coup, pour comprendre, c'est quoi ? C'est la situation qu'on ressent ? C'est l'énergie que dégagent les gens ? C'est une situation que certains pourraient mettre en photo ? Vous préférez la mettre en peinture ?
Non, c'est la réflexion qu'on emporte avec soi quand les gens sont plus là. C'est ce qui perdure de l'image des gens, des situations. Des choses comme ça qu'on essaye de digérer. Et moi, j'ai cette façon de digérer ce tube digestif qui est un tube de peinture, en fait. Voilà.
Dans une société comme la nôtre actuellement, comment est-ce que vous voyez la place de la peinture ? Comment est-ce que vous la définiriez, la peinture généralement, et puis la vôtre ?
Je pense que la peinture, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui aide à garder le sens de la nuance. Et c'est un sens qui est très important, fondamental, et qui a tendance à être un peu maltraité par la productivité, le profit et tout ça. On veut les choses d'une façon ou d'une autre, et il n'y a pas de nuance. Donc je pense que la peinture est très importante pour ça. Après, la peinture d'un professionnel indépendant, je pense qu'elle a plus sa place, et puis que c'est complètement désuet. Parce que maintenant, chacun fait sa peinture. Et puis, on peut en penser ce qu'on veut. Personnellement, moi, ça m'ennuie profondément, mais c'est comme ça. Donc oui, je suis un décalé. Je suis quelqu'un qui a perdu le sens de son utilité fondamentale, quelque part, un peu égaré, paumé.
Donc quand on voit tes tableaux, tu fais peu de séries, David Orange. Alors que généralement, la répétition, c'est quand même un des moyens qui étaient trouvés par les peintres pour arriver à vendre leur tableau, pour satisfaire à la demande, on dira, de la série.
Merci pour l'information. Vraiment, je vais commencer à faire des séries maintenant. Merci. Dès que je vends un tableau, je le referai 10 fois.
Ouais, c'est un peu...
Je n'ai pas compris que c'était comme ça que ça marchait, en fait. Mais merci beaucoup.
Ouais, il suffit de regarder tous les soi-disant grands peintres. Ouais. Ben voilà, donc pourquoi ce choix ? Donc, c'est juste parce qu'il n'y avait jamais pensé ou il y a peut-être une réflexion un peu plus profonde ?
J'avais fait par hasard, sans penser comme ça, des séries de danseurs, par exemple, parce que je voulais faire un bal pour mes 20 ans de peinture. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vendu, mais je n'ai pas pensé qu'en fait, une série... J'ai pas vu, c'est très noble de voir ça comme série. Moi, je voyais ça de refaire pour revendre, et je trouve ça assez pitoyable. Mais bon, voilà. On est vendeur ou on ne l'est pas, je crois que...
Pour vous, l'art, c'est avant tout se faire plaisir, exprimer quelque chose ?
Moi, j'aurais bien aimé être capable de me débarrasser de cette maladie, en fait. J'aimerais bien savoir faire autre chose. J'aimerais bien pouvoir me tenir dans la société d'une façon cohérente, sans passer par la peinture. Mais malheureusement, c'est mon seul lien cohérent.
À l'instar de l'intitulé de ton exposition à Pôle Sud, les titres de tes tableaux sont presque toujours ironiques. Tu recours d'ailleurs assez volontiers au jeu de mots. La raison de ce parti pris ?
Ouais, c'est... J'aime pas l'idée qu'on puisse dire sans titre, bien que, en fait, chacun devrait pouvoir entrer librement dans un tableau sans avoir un guide, mais parfois c'est une clé. Parfois aussi, ça me permet de me fichtre un petit peu du temps d'aujourd'hui et de jeter une pique. Parfois, oui, c'est un lien nécessaire à un private, un jeu de mots privé.
En bon français dans le texte. Il y a pas mal de nudité hein, dans vos tableaux, hein, ceux que vous exposez ici à Pôle Sud notamment, hein, si je me réfère à quelques exemples que j'ai vus. J'ai entendu dire aussi que ça avait pas mal choqué certains utilisateurs des lieux. Qu'est-ce que vous en pensez quand on vous dit ça ?
J'en suis désolé. Ouais, la nudité, moi je ne la conçois même pas comme nudité parce que en fait, quand on veut présenter quelque chose de vrai, il peut pas être habillé. L'habit est une forme de mensonge, donc à part ça, il y a peu de nus intégraux, il y a beaucoup de menteuses. Et c'est vrai que l'homme plastiquement est moins intéressant. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. La peinture ou les muses ont toujours été représentés comme ça. Il y a toujours eu ce paradoxe. Dans les églises, il y a des gens nus. Bon, il y a aussi des braguettons qui viennent les rhabiller après. Mais pour moi, je ne me suis jamais vraiment posé cette question comme ça. Mais j'entends que ça pose un problème. Mais dans ma façon... Mon intention n'a rien à voir avec la nudité, ni... Ouais. Voilà. Mmh.
Stéphane.
Sans bouder totalement les écoles, tu es notamment passé par les Beaux-Arts. Tu as quand même toujours été animé par une farouche volonté de découverte qui te pousse à appréhender diverses techniques en autodidacte. D'où te vient ce besoin ? Est-ce que l'huile ne te suffit pas ?
Non. Tu parlais de la série tout à l'heure. En fait... Il y a un moyen de faire des séries, ça s'appelle l'estampe. J'étais parti il y a très longtemps pour être un peintre de la campagne française et ne jamais revenir en Suisse. Et puis j'ai commencé à faire une gravure, parce que je me disais, un peintre, il doit pouvoir faire des gravures pour multiplier son œuvre, pour pouvoir la distribuer. Et puis, donc j'ai commencé à graver avec une gouge dans un morceau de bois relativement plat. Et puis, après, j'ai pris de l'encre de plume et je l'ai mise sur mon bout de bois. Et puis, j'ai fait avec une cuillère, puis ça ne marchait pas. Et puis je me suis dit, ben, il faut que je retourne aux Beaux-Arts parce que je n'arrive pas à faire une gravure. Voilà. Donc j'ai appris à faire de la gravure. Et puis après, ben, c'est des métiers. Donc chaque fois, et c'est, comme j'ai dit, c'est, je pense que c'est réellement ma source d'inspiration. C'est le savoir-faire artisan de l'art artiste. Voilà.
Et puis, est-ce que les recherches donc, que tu effectues dans d'autres domaines graphiques enrichissent ta pratique de l'huile ? Est-ce que ça la remet en cause plutôt, ou est-ce que les unes sont indépendantes des autres, de l'autre, pardon?
C'est moins élaboré à l'intérieur de moi que ta question ou votre question. Mais au départ, c'est vraiment l'idée de faire des multiples, et puis après, on n'y arrive pas, donc on fait autre chose. Et puis, tout d'un coup, il y a un sillon indépendant qui se trace, et puis on le suit ou on ne le suit pas. Mais c'est comme ça qu'elles se séparent, et puis évidemment qu'elles s'enrichissent l'une l'autre. Elles se répondent, et puis après, ça devient un moyen très intéressant, de, quand on en a marre ou qu'on n'a plus d'inspiration, de travailler une autre matière, parce qu'il y a, un autre dialogue. C'est comme si, quand on en a marre de sa sœur, on va voir son père, ou voilà. La cousine.
Depuis plus d'une quinzaine d'années, David Orange, vous donnez aussi des cours. La notion de transmission, c'est quelque chose qui est important pour vous ?
Oui, c'est un rapport aussi avec ce que j'ai dit à propos d'être déphasé par rapport à la société. C'est qu'à un moment donné, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais défendre le mieux la peinture. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas en la vendant. Mais que c'était peut-être en offrant ce qu'elle m'a donné, ce que j'ai été chercher, parce que c'est quand même, ça fait 30 ans que je fais ça. Donc c'est vrai que j'ai accumulé un certain nombre de secrets, puis j'ai peut-être une sorte de talent pour trouver des techniques et des choses comme ça. Donc le transmettre, c'était la meilleure, et à mon avis, c'est encore la meilleure moyen de défendre la peinture.
Puisqu'on est à parler de transmission du savoir, on peut aussi signaler que l'association des amis d'Henri Rorda propose dès ce vendredi une lecture spectacle du texte « Le pédagogue n'aime pas les enfants ».
Henri Rorda, Stéphane, tu pourrais peut-être nous expliquer quelques mots, donner quelques jalons pour ceux qui n'auraient pas la chance de le connaître.
Eh bien, Henri Rorda, c'est un pédagogue libertaire à la plume agile, proche du mouvement anarchiste. Il a notamment fréquenté Élisée Reclus ou Pierre Kropotkine. Il a aussi collaboré à l'école Ferrer, une des grandes réalisations en matière d'éducation non autoritaire. De même, il a rédigé des manuels scolaires, des essais, des pièces de théâtre. Il a aussi tenu des chroniques régulières dans la presse, ceci afin d'arrondir ses fins de mois. Une sélection de ses amusants textes, pleins de malice et de verve, a notamment été recueillie sous le titre « Apprendre ou à laisser ».
Une vie bien remplie, hein, le jeune homme.
Oui, à laquelle Henri Rorda mettra un terme le 7 novembre 1925 en se tirant une balle en plein cœur. Mais avant ça, il y a tout juste 100 ans, donc en 1917, Rorda publiera « Le pédagogue n'aime pas les enfants ».
Et un essai justement aujourd'hui transformé en lecture-spectacle dont tu as eu déjà un avant-goût, Stéphane.
Oui Fabien, et je te propose d'ailleurs qu'on en écoute tout de suite un extrait capté en exclusivité pour Radio Django. Ouh.
Le pédagogue n'aime pas les enfants.
Il n'en meurt pas.
La vie peut continuer longtemps dans des conditions très défavorables. Après des semaines de sécheresse, on voit quelquefois, sortant de la fente d'un vieux mur, d'étonnantes petites plantes presque fraîches, dont l'obscur vouloir vivre n'a pas été découragé par la pierre avare où elles cherchent leur nourriture. Ces petites plantes tenaces et tant d'autres organismes, en partie détruits, dont le vœu opiniâtre est de durer, donnent raison à ce père de famille qui, me parlant de l'école peu satisfaisante où il avait dû mettre son fils,
« Je n'ai pas été plus favorisé que lui, il n'en mourra pas. »
Il faut le reconnaître. Quelles qu'aient été les fautes commises par nos éducateurs, nous n'en sommes pas morts. Nous sommes encore là. On nous compte lorsqu'on fait le recensement annuel de la population, et ça, c'est énorme. Mais soyons sérieux. J'ai là sur ma table un certain nombre de manuels scolaires. Je vais vous donner quelques-uns des renseignements que l'enfant y trouve. Voici une règle d'arithmétique que je trouve dans un manuel destiné aux écoles primaires supérieures et aux écoles secondaires des jeunes filles.
Une fraction décimale périodique mixte est égale à une fraction ordinaire dont le dénominateur est un nombre formé d'autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période, suivi d'autant de 0 qu'il y a de chiffres dans la partie non périodique et dont le numérateur s'obtient en retranchant la partie non périodique du nombre qu'on forme en écrivant la période à la droite de la partie non périodique.
Une fraction décimale périodique mixte est égale à une fraction ordinaire dont le dénominateur est un nombre formé d'autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période, suivi d'autant de 0 qu'il y a de chiffres dans la partie non périodique, et dont le numérateur s'obtient en retranchant la partie non périodique du nombre qu'on forme en écrivant la période à la droite de la partie non périodique.
Tout simplement. Je ne citerai pas de théorème d'algèbre, ils n'ont une signification claire que pour les initiés. C'est dire que beaucoup d'écoliers les débitent sans y comprendre grand-chose. Quelques faits historiques.
Les Turcs durent signer en 1699 le traité de Karlovitz, d'après lequel ils ne conservaient en Hongrie que le banat de Temesvar.
Retenez ce nom car il ne reviendra plus.
Pendant la guerre de 7 ans, Frédéric II se fit battre à Kolyne, à Horkirch et à Kunersdorf.
La maison de Saxe s'éteignit en 1024.
Quant au corsaire Duguay Trouin, il mourut en 1736.
Il devait d'ailleurs finir par là.
Épaminondas mourut en 362 avant Jésus-Christ.
Les écoliers, pour quelques jours, savent du moins qu'il exista
un roi Attal et puis un roi Eumène. Quelle malpropreté ces messieurs ont-ils faites ?
On l'ignore car le manuel ne nous fait connaître que leur nom.
Et de même ?
Tout ce qu'on sait du général spartiate qui bâtit Nicias, c'est qu'il était rusé et il s'appelait Philippe.
Gilippe. Enfin ?
Parmi les dieux des anciens germains, le manuel cite Ziu et son copain Donard.
Mais si dans une prochaine édition, l'auteur attribue ses noms à deux généraux japonais, les élèves n'y perdront absolument rien. Arrêtons-nous un instant.
Oui, et ben nous aussi, on va s'arrêter un instant. D'ailleurs, Stéphane, comment est-ce que tu as fait pour aller récupérer ces sens du piratage ?
Même pas, non, j'ai été invité très gentiment dans leur cuisine, vu qu'on ne leur avait pas encore livré le rétrobus dans lequel ils vont donner le spectacle à partir de ce week-end. Donc du coup, ils m'ont invité chez eux, dans la cuisine, on a bu un café, puis je les ai enregistrés, tout simplement.
Extraordinaire. Donc, ce que vous entendez ce soir, c'est une exclusivité pour vous. Et c'est enregistré dans une cuisine. Ça n'a pas l'air, mais tout à fait bien. Merci Stéphane. David Orange, vous êtes resté avec nous. Ça vous parle, l'ironie d'Henri Rorda ?
L'ironie ?
Oui.
Pour autant que ce que j'ai pu en entendre, oui.
Vous êtes un petit ironique, tout comme lui.
Je ne sais pas si on fait exprès d'être ironique, finalement. C'est la situation qui est ironique.
Effectivement. On écoute un deuxième extrait, la suite de cet enregistrement, dans une cuisine d'Henri Rorda.
L'école, c'est-elle ce qu'elle veut ?
Étiqueter.
Classer.
Juger des êtres et des choses que l'on n'a jamais étudiées avec soin.
Des êtres et des choses que l'on ne connaît pas.
Voilà l'habitude que l'on contracte à l'école et que l'on gardera peut-être jusqu'à la fin.
Mais...
Encore quelques mots. On dit volontiers qu'à l'école, l'enfant apprend à apprendre. On entend par là que l'école donne à l'enfant une méthode, un ensemble de bonnes habitudes qui le rendront capable d'étudier seul. L'idée est excellente.
Alors, comment se fait-il que des élèves de 18 ou de 19 ans soient astreints du commencement de l'année à la fin à la même discipline que les débutants âgés de 8 ans à peine ? On n'enseigne pas à ceux-ci ce qu'on enseigne à ceux-là.
Mais pourquoi ne dit-on pas de loin en loin à ceux qui ont appris à apprendre « Aujourd'hui, vous ferez à votre manière le travail qui vous intéresse le plus. Et demain, nous examinerons ça. »
C'est incontestable. Nous ne faisons pas faire à nos élèves l'apprentissage de la liberté.
Ah, comme notre besogne pourrait être passionnante si nos élèves avaient de la curiosité, de l'avidité. Mais donner sans cesse des explications à des enfants silencieux qui ne demandent pas, quelle amertume parfois.
Et comme elle est profonde, l'envie que l'on a certains jours de dire à ceux que l'on prépare pour le baccalauréat, ce que nous faisons là n'est pas de la vraie science. Parlons d'autre chose et soyons sincères.
L'école sait-elle ce qu'elle veut ?
Voilà la question qu'on se pose lorsqu'on a constaté les effets du régime auquel elle soumet tous les enfants.
Les pédagogues ont une chance exceptionnelle. Dans le monde fermé de la pédagogie, une révolution rapide et profonde pourrait se faire sans danger.
Elle n'influerait pas sur le cours de la bourse et ne provoquerait aucun désordre dans la société.
Cette révolution se fera dès que l'école voudra bien reconnaître l'incohérence de ses pratiques traditionnelles.
On peut fort bien vivre sans savoir ce qu'on veut,
sans rien vouloir du tout.
Mais il est absurde d'éduquer la jeunesse si l'on ne se fait pas une idée tant soit peu claire du but à poursuivre.
De la direction dans laquelle il faut agir.
Les éducateurs pourraient faire quelque chose pour l'embellissement de la race humaine. C'est dire que leur action ne doit pas se confondre avec l'action conservatrice de l'État. Le rôle de l'école est d'entretenir l'idéalisme dans l'âme humaine. Et dans ce sens, son action ne peut être que révolutionnaire.
Puisque l'écolier nous apporte sa naïveté et son enthousiasme facile, donnons-lui l'illusion que la vie est belle.
Cette illusion deviendra peut-être agissante. Devenu grand, il essaiera de mettre dans les choses un peu de cette beauté des idées entrevues à l'école.
Donnons aux enfants un élan pour la vie. Et si cet élan doit les porter au-delà du point où notre lassitude et notre prudence nous ont fixés, si un jour, avec l'ardeur et la liberté d'esprit qui nous devront, ils attaquent les dogmes de notre imparfaite sagesse,
tant mieux.
Voilà donc pour ces enregistrements et cette exclusivité que Stéphane, tu nous as rapporté. Merci beaucoup d'ailleurs.
De rien.
Et on remercie également David Orange de nous avoir parlé ce soir de la peinture. Globalement, on rappelle brièvement votre actualité. Une exposition ici même à Pôle Sud, encore visible jusqu'au 30 septembre. Ça fait encore une petite quinzaine de jours. Une exposition qui est intitulée Exquise Frénie. Et aussi à partir du 21 septembre, c'est dans deux jours à Rolle, à la galerie Pfeiffer, une seconde accroche titrée Poème sourd contre la vague triste. Une exposition à voir jusqu'au 1er octobre inclus. Quant à la lecture du spectacle, le pédagogue n'aime pas les enfants, d'après le texte d'Henri Rorda, qu'on vient d'entendre en extrait, qui sont donnés par Joe Bugley, Hubert Cudré et Michel Demière. Elle aura lieu dans le Rétrobus, parqué près de la cathédrale. La première des 5 représentations aura lieu ce vendredi, le 22 septembre à 20h. Pour connaître les autres dates ou pour obtenir tous les renseignements complémentaires, on vous renvoie sur notre site www.django.fm ou encore au téléphone 021 323 21 70 021 323 21 70. Stéphane, une dernière information encore par rapport à la réédition des textes.
Effectivement, les éditions Humus donc rééditent de manière enrichie Le pédagogue n'aime pas les enfants qui avait été publié en 1917 dans les cahiers vaudois. Donc pour les 100 ans, ils le republient de manière très belle.
Et puis, est-ce que ça va ressortir dans les classes aussi en 2017 ?
Ça, je doute. il est peu étudié dans les classes, Rorda, malheureusement.
Bon, ben voilà, une nouvelle idée pour les écoles vaudoises, si elles nous écoutent ce soir. Voilà, pourquoi pas profiter de cette réédition. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette rubrique culturelle de ce mardi 19 septembre.